Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Julien, il aime bien.
Moi, j'aime bien.
Ah, mais Julien va parler en premier en plus.
Ah, putain, c'est bien. Merci.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma sur qui certains noms agissent comme un appôt magique et féerique. Leur simple évocation suffit à nous faire sortir du bois pour accourir le cœur gonflé d'espoir. Ainsi, celui au hasard de Peter Jackson, bon génie néo-zélandais fermement installé dans nos petits cœurs de cinéphiles dont le patronyme est accroché à un étrange projet dont les images nous intriguent depuis des mois, Mortal Engines, dont on va causer avec un quatuor de tendre mais néanmoins farouche hobbit, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Je sors du bois.
Très bien Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 164 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Mortal Engines nous entraîne donc dans un univers post-apocalyptique comme on les aime tant. Les villes sont désormais de gigantesques édifices mobiles et un peu menaçants dans lesquels il ne fait pas super bon vivre. C'est le cas de Londres où réside notre héros Tom alias Robert Sheehan qui se retrouve propulsé hors de sa hometown lorsqu'il croise la route de la mystérieuse Esther et Rami Ilmar, une jeune femme masquée lancée dans une vengeance toute personnelle contre l'un des seigneurs de la ville, Thaddeus Valentine, incarné par le vétéran jacksonien Hugo Weaving.
Watch out! Valentine. This is for my mother.
Stop! Derrière la caméra, c'est Christian Rivers, collaborateur historique de Peter Jackson depuis Brain Dead, notamment sur les effets spéciaux. Ça lui a valu d'ailleurs un Oscar pour son boulot sur King Kong. Jackson lui co-signe le scénario avec évidemment Fran Walsh et Philippa Boyen, ses fidèles complices. Votre ami sur ce Mortal Engines, les amis.
Alors forcément. Notre ami.
Votre avis, j'ai dit quoi?
Notre ami.
Vous êtes mes amis, c'est pour ça. Je vous aime. Surtout Julien Dupuis qui va commencer. Salut Julien.
Il faut absolument que les auditeurs lancent cette pétition
pour arrêter de commencer.
C'est le cadeau empoisonné, c'est même pas un cadeau, c'est un poison.
C'est un cadeau que je te fais.
Et en plus, moi je vais être un peu seul parce que moi le film n'est pas apprécié, c'est manifeste. Enfin, je vois, il y a beaucoup d'échos et je pense que ça va être confirmé avec ce podcast. Et moi je l'aime bien en fait ce film, il me fait un peu penser, c'est un film qui est pas élégant, c'est un film un peu maladroit, c'est un film qui est pas très bien fini,
te fait penser à qui du coup?
Et ça me fait un peu penser à John Carter. Alors c'est moins bien que John Carter, oui. mais j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire que j'ai la sensation qu'il y a eu des luttes avec la narration par exemple, qui manque de transition entre certaines scènes, qu'il y a certaines scènes qui au niveau du ton sont pas très bien fixés non plus. Il y a des problèmes de casting qui sont, assez inhérents, notamment à Fran Walsh. Je pense qu'elle est évidemment très impliquée avec Peter Jackson et Philippa Boyen dans la conception du film. Et je trouve que Fran Walsh, elle a une tendance à avoir des choix de casting masculin parce qu'elle est très impliquée là-dessus, qui sont pas toujours très heureux. Et ça se sent là, et ça se sent d'autant plus que, mais alors là, ça va déboucher sur une des qualités du film, que là on se retrouve face à un film young adults en fait, qui assume en fait ce genre là totalement, et qui le prend pas de haut ou qui le prend pas avec cynisme en fait, comme le young adults a tendance à être pris en fait par les studios, parce que c'est un genre qui a été très lucratif, mais qui a un peu passé aussi de mode. C'est là aussi où Mortal Engines va être très compliqué à mon avis à vendre, et ça se sent aussi du côté d'Universal. Alors après, Moi, le truc avec le film, c'est que déjà il y a une vraie générosité en fait dedans. C'est un film qui dure 2 heures environ et qui a énormément de propositions, qui a plein de scènes que personnellement je n'ai jamais vues au cinéma. Mmh. Et c'est dans les blockbusters, c'est pas très courant. L'autre chose que j'aime beaucoup et j'en parlais un petit peu avec le Young Adult, c'est qu'il y a pas de distance en fait. Et c'est là aussi où le film est un peu anachronique, c'est-à-dire que il se retrouve. Enfin, je vois en fait une espèce de tension, de contre-exemple avec Spider-Man New Generation en fait, qui sort en ce moment, qui à mon avis va pour le coup vraiment bien fonctionner et qui pour le coup est totalement dans l'esprit en fait de notre époque, c'est-à-dire dans un positionnement, c'est un vrai film post-moderne, c'est-à-dire un film qui fonctionne en disant qu'il n'est pas dupe de ce qu'il raconte et qui essaye de reproposer quelque chose en disant mais je ne suis pas dupe de ce que je te raconte quand même. Il n'y a pas ça du tout dans Mortal Engine, il y a une vraie honnêteté et une vraie affection en fait pour ce qu'il est en train de raconter. Et puis le truc aussi que j'aime bien dans le film, c'est un filmage très particulier. Alors c'est pareil, des fois c'est pas très heureux, mais en même temps moi je suis content de retrouver un gars qui filme aussi comme ça, qui est parfois extrêmement près avec des focales très très courtes en fait de l'action. Ça, je pense que voilà, Christian Rivers t'a dit qu'il avait fait des effets spéciaux pour Peter Jackson, c'est vrai, mais surtout Christian Rivers, c'est son storyboarder, depuis Braindead. Et après il a fait des animatiques pour lui, notamment sur King Kong, et il était réalisateur de Second Épique sur le Hobbit.
De Second Épique.
C'est un hommage à ton art.
Je dis plus rien.
Donc il y a des choses comme ça qui sont très hémisphère sud en fait dans la façon de filmer, c'est-à-dire il y a un style quand même qui vient de là-bas, quand pour monter à Geoff Murphy évidemment, à George Miller et tout, et que je retrouve moi de temps en temps dans le film. Et puis ça c'est plus accessoire, mais il y a quand même des effets spéciaux hallucinants et une générosité là-dedans aussi d'autant plus frappante que c'est un film qui n'a coûté que 100 millions de dollars. Mmh. C'est-à-dire qu'il est en concurrence là avec énormément de films, des Aquaman, Mary Poppins, je parlais de Spider-Man tout à l'heure, et au bas mot, tous ces films-là, ils ont coûté 50, 60 millions de dollars de plus. Mmh.
Donc c'est un peu la patte de Jackson aussi, d'être under budget.
Oui, oui. Mais en étant tourné en Nouvelle-Zélande, je veux dire, quand tu tournes en Nouvelle-Zélande, t'as pas les crédits d'impôt que tu as quand tu tournes, je sais pas moi, à Détroit ou même en Angleterre, etc. Donc il y a énormément de boulot quoi là-dessus. Voilà. Et peut-être un dernier petit truc aussi avant de laisser la parole au déchiqueteur du film, c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est que dans le Young Adult, moi j'ai rien contre ce genre. Après, je trouve que dans les propos, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un des poncifs en fait de ce genre qui est lié à l'adolescence en fait, c'est-à-dire comment toi tu t'inscris par rapport à un monde que tu ne cautionnes pas, et il y a ça dans le film, il y a une parabole évidente sur la croissance, cette obsession de la croissance, et puis qu'est-ce que c'est de tout à coup essayer de s'arrêter et de plus refuser ça et d'essayer de faire fructifier ce que tu as. Alors il y a une métaphore qui n'est pas forcément d'ailleurs délicate, et je trouve et assez pertinente. Il y a un autre truc moi que j'aime bien dedans et que je ne vois pas du tout dans le Young Adult, qui est un rapport à la beauté. C'est-à-dire que le Young Adult, pour moi, il y a un vrai problème là-dedans, c'est que souvent, tu te retrouves avec des personnages qui sont valorisés par leur physique, en fait. Donc ça, de Jennifer Lawrence au cast du Labyrinthe, enfin, je me souviens plus de tous ces acteurs et tout. Et là ils vont à contrario de ça. Et je pense que c'est un choix habile, en fait. C'est-à-dire que je pense aussi que l'adolescence, t'as un corps, t'es pas très heureux et pas très satisfait avec ça, tu le caches. Alors, en l'occurrence, c'est l'héroïne qui a une balafre énorme et elle le cache. Petit à petit, elle va apprendre à apprivoiser en fait ce défaut-là, et puis à l'assumer. Ah si, j'ai un autre truc. Non, il y a un autre truc aussi qui est un très beau personnage de monstre aussi dans le truc, qui est un peu parasité par cette indélicatesse et ce côté bourrin en fait que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y va à fond, et des fois, c'est un peu ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de flashback et tout qui sont pas terribles. Mais il n'empêche que ce personnage, il est là. Il s'appelle Shriek. Il est joué par Stephen Lang en performance capture. Et il est hyper radical. Et il y a ce petit grain de folie, d'ailleurs, que tu retrouves hein, chez Jackson avec des rednecks qui sont dans un véhicule, un marchand d'esclaves et tout. Lui, il en fait partie, en fait, de ce côté aussi qui tranche avec le tout venant, en fait, de ce qu'on voit dans les grosses prods actuellement. Et moi, je suis content d'avoir vu ce personnage-là aussi. Et je sais que c'est un personnage qui tient à cœur à toute l'équipe, qu'ils aimeraient énormément développer, parce qu'apparemment, il est très développé dans les romans que je n'ai pas lus. J'étais content de le voir. Voilà.
Très bien. Perrine.
Je trouve ça non, je vais plutôt passer par autre chose. C'est juste que début du film, voilà, dans le début du film, au début, tout début du film, ça, on nous met une entrée en matière qui est assez directe, et je trouve ça très agréable. Par exemple, ça arrive directement. On est dans une bataille avec deux, donc ces fameuses cités villes sur roues. Je ne sais pas te dire ça autrement. Les cités roulantes, là. Et dès le début, on est projeté dans une bataille entre deux. Et sans contexte, quasiment sans rien. Enfin, on a eu un petit résumé de l'affaire, mais vraiment très rapide. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable de me faire projeter là-dedans et de découvrir cet univers. Et là, je me suis dit, ça, c'est assez spectaculaire. Regardez, ouais. C'est vraiment sympa. Et donc, c'est pour ça, c'est marrant que tu parles de George Miller à un moment donné, puisque la musique qui passe à ce moment-là, on a l'impression d'entendre Fury Road. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu gênée. Et elle revient régulièrement d'ailleurs dans le film.
C'est le même compositeur.
C'est le même compositeur, oui, mais
c'est un gros problème.
C'est un vrai problème, par rapport à
Carter, où là c'est un vrai plaisir, mais de Giacchino, là c'est vrai que c'est un problème.
Là il y a un problème, c'est qu'on vraiment on entend tout le temps du Fury Road, et donc en fait on se dit, bon, c'est quand même dommage d'avoir une histoire de trucs sur roues qui se poursuivent avec un peu steampunk aussi, qui est un peu emprunté, en tout cas musicalement. Parce que visuellement, pas des masses, du tout d'ailleurs, mais on a cette présentation des villes, et ça je trouvais ça assez fascinant, mais d'un seul coup quand on les voit à l'extérieur, c'est assez prodigieux, mais dès qu'on rentre dedans, il y a un côté beaucoup plus artisanal, des décors qui peut être sympa, mais qui là d'un seul coup fait un peu cheap, et c'est un peu dommage en fait. Et c'est un peu ce que je reproche à peu près à l'ensemble du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vois l'ensemble, je me dis tiens, ça a l'air, c'est une bonne idée. Pareil pour Shrek, que t'as mentionné le personnage un peu de monstrueux, qui est une bonne idée en soi, mais la manière dont il est amené, et quand on rentre dans le détail, ces histoires de flashback, tout ça, dès qu'on va à peu près dans le détail, c'est là où ça se barre en vrille en fait. Le film n'a pas tellement de tenue entre son macro et son micro. Il y a quelque chose où même les twists qui arrivent comme ça au fur et à mesure du récit, les petites histoires dans l'histoire, elles fonctionnent pas du tout. On nous amène des personnages de nulle part. Enfin, il y a rien qui, je dis pas qu'il faut présenter chaque personnage qui arrive, mais là d'un seul coup, en fait, le problème c'est qu'on s'en fout un peu de tout le monde. Donc et comme il y a personne qui a un véritable charisme dans ce film, au bout d'un moment, voilà, le Robert Sheehan, que par ailleurs j'aime bien, hein, qui est un acteur qui était dans la super série Misfit, c'est vraiment un super acteur, et là qui joue pas le même rôle que d'habitude, justement pour une fois il joue pas quelqu'un d'un petit peu un weirdo sympathique, quoi. Là il a un vrai personnage de un peu de héros. Tout manque d'ampleur, tout est un peu en papier de cigarette, ça ne prend pas, il n'y a jamais rien qui prend en fait dans ce film. Et en effet, le fait qu'il soit vraiment du young adulte, moi je trouve ça bien de pas être dans le tempo du young adulte, mais ça va être ses problématiques en réalité aussi. Le young adulte, c'était la fin, ça s'est terminé en 2012 à peu près, la mode du young adulte. Donc ça commence à tarder, ça fait tard de sortir ce type de film, et qui en plus n'est pas si créateur d'un univers. Donc en fait, au début, moi j'étais très motivée, et il y a un véritable ennui poli qui s'installe pendant tout le film, jusqu'à un moment donné, le énième twist où là je fais non, mais là j'en peux plus en fait. C'est juste que c'est assez fatigant à regarder parce que d'une part on les voit venir, et d'autre part c'est pas. Et encore ça c'est pas grave, mais en plus ils sont même pas intéressants ces twists. Donc non, c'est dommage parce que vraiment je suis partie très exaltée, et pour finir par être contente de sortir de la salle quand même.
David ?
Ouais, je suis assez d'accord avec cette évolution au cours du film, mais surtout parce que en fait ce que montre la séquence d'ouverture, je trouve que c'est une idée thématique vraiment extraordinaire, et pour le coup très très bien rendue visuellement, cette idée des grosses mégalopoles mobiles qui iraient dévorer des plus petites citadelles. C'est un truc que je trouve hyper intéressant, hyper efficace visuellement, qui en plus fait écho à pas mal de questionnements très contemporains, justement sur le rapport des grosses agglomérations avec les autres villes, enfin à la fois en France ou ailleurs dans le monde. Et en fait, malheureusement, cette thématique, elle est assez vite expédiée, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le sujet de la première séquence. Mais, je m'attendais presque à ce que tout le film puisse tourner autour de cette idée et d'avoir peut-être des affrontements entre plusieurs villes. Et on a presque l'impression que l'arc narratif du film a contraint à compresser ce qu'aurait pu tenir sur je sais pas une trilogie ou enfin sur plus longtemps et ce côté narrativement compressé finalement joue contre le film parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser suffisamment aux enjeux effectivement macro et aussi aux enjeux personnels des différents personnages. Donc ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, je pense que tu l'as dit en intro, c'est-à-dire qu'un des trucs qui nous a un peu émoustillé autour de ce projet, c'est le nom de Peter Jackson, sauf que c'est pas Peter Jackson qui réalise.
Et non.
Il me manque un peu un cinéaste aux commandes de ça parce que j'ai l'impression. Par comparaison avec John Carter par exemple que je vais pas avoir beaucoup d'images qui vont me rester de ce film quoi. Et là où c'est le plus frappant c'est justement à la limite les scènes qui demandent beaucoup d'effets spéciaux et les scènes d'ensemble certaines sont assez intéressantes, bien construites, bien découpées. En revanche quand on est sur des scènes plus lambda de dialogue par exemple on a l'impression que là il n'y a plus aucune idée de mise en scène. Oui. Et le film souffre beaucoup de ça parce qu'on est du coup face à quelque chose qui manque de personnalité, je rejoins après tout ce qui a été dit avant sur le fait que le casting est compliqué, mais en fait peut-être que c'est aussi dû justement à ça, le fait qu'il soit pas suffisamment bien mis en valeur par la mise en scène. Donc on est un peu sur l'entre-deux, et surtout sur une déception en regard du potentiel que ça. En revanche, une réflexion que je me suis fait notamment sur la fin du film. Où par les thématiques, par certains motifs, on se dit, on a presque l'impression d'être dans un Star Wars. À la limite, ce qui est intéressant et ce qu'on peut sauver, c'est que voilà, ça serait pour le coup un Star Wars dans un autre univers visuel, dans un autre univers thématique, avec la possibilité du coup de raconter d'autres choses. Et au moins, ça, c'est un petit peu rafraîchissant, quoi. Stéphane.
Oui, tout ce qui a été dit là, c'est plus ou moins mon sentiment général, avec l'idée que effectivement, il faut, la raison pour laquelle on attend éventuellement Peter Jackson, indépendamment du fait que ça soit lui qui soit énormément mis en avant dans la promo du film et tout ça, c'est que c'est un projet qu'il devait faire lui, en fait, qu'il devait réaliser à la fin des années 2000, quand Del Toro était encore sur le Hobbit. Donc c'est un peu là où je trouve ça dommage effectivement qu'on y perde au change. Et surtout, en fait, moi je trouve dans une logique de création d'univers, parce que il a quand même démontré qu'il était capable de faire ça au cinéma, de le créer. Et du coup, t'as toute une mise en place. Il n'y a pas que la scène d'ouverture d'action qui est effectivement assez impressionnante et assez inédite, mais il y a aussi le rapport à notre quotidien à nous, c'est-à-dire la façon dont ce qu'eux ils appellent les anciens ont finalement fini par détruire la Terre. Et du coup, avec tous les jeux de... Et moi, j'aime bien ça dans la SF, en fait, quand les mecs te montrent, par exemple, des iPhones, des trucs comme ça, pour te montrer que c'est des reliques. Et tout ça, en fait, c'est pareil, ça se délite complètement, ça n'existe plus au bout d'un moment dans le film, dans le récit. Et c'est dommage, parce que je pense que c'était des points d'ancrage qui pouvaient vraiment rattraper le spectateur pour dévoiler cet univers-là. Il y a quantité d'images. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on va pas forcément garder certaines images. Il y a quantité d'images en fait assez fortes. Je parle. Bon, il y a la scène d'ouverture. Il y a aussi ces horizons à perte de vue avec les traces, on va dire des traces de pneus. Mais le truc en fait assez impressionnant parce que du coup, tu vois le gigantisme. Tu ressens le gigantisme en fait de ces machines, de ces villes machines quoi. Mais oui, alors effectivement, le problème principal, c'est que ce n'est pas Peter Jackson qui réalise le film. Moi, j'aime beaucoup l'arc avec le personnage de Stephen Lang. Je trouve que c'est assez touchant. Ça se voit en fait qu'ils y tiennent, ça se voit qu'ils ont essayé de créer quelque chose de qui est à la fois en fait différent vis-à-vis, c'est évidemment Frankenstein et tout ça, etc., mais avec une façon de le présenter qui est différente. Il y a l'idée de jouer avec presque cette notion de cœur du récit, de ce que de ce personnage principal représente en fait vis-à-vis du personnage de Stephen Lang, qui est assez touchant quoi. Mais et inédit je trouve un minimum en fait dans ce genre de récit, parce qu'effectivement le reste du problème du récit c'est que pour moi c'est cousu de fil blanc en fait, c'est-à-dire que en fait on se retrouve dans une écriture où on a l'impression que tous les archétypes de base doivent finalement être traités pour ne surtout pas perdre le spectateur dans cet univers qui est complètement inédit. Et là où moi je trouve que la comparaison que je comprends, hein, la comparaison de Julien avec John Carter et moi je rajouterais même Jupiter Ascending par exemple, qui sont des films brinque-ballant, qui sont des films à problème, mais qui sont portés par une énergie, un savoir-faire que tu peux pas leur enlever. Et parce qu'il y a des vrais cinéastes derrière les films, il y a des types qui réfléchissent à ça. Et là le problème c'est que t'as des boards magnifiques qui prennent vie de manière magnifique dans Mortal Engines, et effectivement à côté de ça t'as des scènes de dialogue en chant contre chant assez pauvres, et mine de rien ça ressemble pas mal à tout ce qui se fait à ce niveau là hein, j'entends vraiment dans cette dichotomie entre les deux types de filmage, ça ressemble pas mal finalement à ce que tu vois chez Star Wars ou chez Marvel aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment d'avoir d'un côté l'impression que t'as l'équipe des effets spéciaux ou les storyboarders, etc., qui font un travail de malade pour assurer un spectacle, et le réal derrière qui s'occupe en gros de diriger les acteurs, et tant pis, en fait, on fout la caméra, quoi. Et ça, c'est quand même problématique aussi là-dedans, et c'est problématique quand, effectivement, tu t'attends à un projet Peter Jackson, quoi. Oui. Parce que ça, même lui, en fait, n'aurait jamais fait ça, en fait, sous cet angle-là, même avec ce budget-là, parce que, bon, je pense que Peter Jackson, il fait plus vraiment des films à 100 millions, pour le coup. Le Hobbit, ça a été quand même un truc à 1 milliard, les trois films, quoi. Donc voilà. Et effectivement, je pense que, indépendamment du succès éventuel du film, je pense que c'est très difficile en fait de lancer un vrai franchise en fait avec un premier projet aussi, un premier film aussi, je trouve brinque-ballant en fait, oui. Vraiment pour le coup, parce que ce que John Carter ou Jupiter Ascending arrive à rattraper, là c'est vraiment, c'est vraiment pas le cas. Et effectivement, il y a ce sentiment qu'on perd le film en cours de route. Donc voilà, moi j'étais assez déçu et je m'attendais pas forcément à ce point-là en fait. Parce que c'est un film que t'as envie de défendre, oui. Ne serait-ce que parce que contextuellement parlant, il ressemble pas vraiment à grand chose d'autre. Mais le problème c'est qu'au fur et à mesure du récit, il finit par ressembler à quelque chose d'autre quoi.
Et donc, aussi il répond à pas mal des choses qu'on demande en fait en parlant, enfin quand on se désole de la production. Marvel ou des derniers Star Wars, c'est aussi parce que justement on attend des nouveaux univers, d'ailleurs pas forcément des nouvelles franchises mais en tout cas
de la nouveauté au moins,
à la fois des films qui coûtent cher et qui ont l'air
du clou quoi,
et qui renouvellent un peu notre imaginaire et même si au final c'est toujours raconter les mêmes mythes et les mêmes structures de base, il y a énormément de choses à travailler quoi.
Là t'as strictement l'Empire contre-attaque et strictement un nouvel espoir en 10 minutes de film à la fin, hein. Tu peux pas louper les deux gros morceaux où les mecs font référence à ça. Mais enfin, je pense à un point où ça en est presque obligé. Mais c'est ça le problème, c'est que d'un côté, en fait, on a un film, un projet qui est censé sortir des clous, et en fait, d'un autre côté, on a l'impression qu'au fur et à mesure où ça avance, ils sont, il faut absolument le faire rentrer dedans, quoi.
Il y a presque en fait une place de blockbuster de l'entre-deux qui a disparu, c'est-à-dire que le enfin, à la fois, on disait que 100 millions, que 100 millions, c'est pas si cher, mais presque en fait il aurait peut-être fallu faire un film à 60-70 millions, et que c'est une place qui est plus trop gérable quoi, se concentrer par exemple sur un des blocs narratifs du film pour en mettant tout l'argent d'effets spéciaux et sur vraiment cet élément là mais c'est des risques qui sont plus possibles parce que on a besoin de tout embarquer d'un coup, je sais pas.
Voilà, le problème c'est un problème de vision pour moi, c'est-à-dire que c'est la vision de qui ce film, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'une fois en fait, si c'est la vision de Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, en tout cas c'est pas l'exécution qui nous ont donné l'habitude d'avoir, y compris, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le Hobbit, moi c'est je veux dire, oui, c'est pas le Seigneur des Anneaux, peut-être, mais le truc, c'est qu'en attendant, pour le coup, même à l'époque, en 2012-2013, je voyais pas ce genre de film au cinéma de manière régulière. Donc il y a énormément de choses. Et en plus, il faut quand même rappeler qu'on l'a pas vu comme il a été,
pensé
à la base. Mais avec l'exécution, malgré le bordel que ça a été, malgré tout ça, en fait, elle était vraiment, mené à terme. Et là, en fait, le problème de cette exécution-là, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu dans une espèce, pas seulement un cahier des charges, mais une façon de faire où on a l'impression qu'on se dit, bon, ben, on verra ça, on rattrapera, quoi. Donc, voilà. Il y a aussi un truc, peut-être à préciser, sur le PG-13.
Oui.
Qui est un peu étrange dans le film parce qu'il y a 2-3 moments où tu sens en fait qu'ils ont essayé de faire de la violence un peu
graphique
et en fait comme ils ne peuvent pas se le permettre puisque c'est un PG-13, bah ça, c'est assez tu sens un truc de censure et ça je trouve que ça participe aussi un petit peu même si c'est que des détails, ça participe un petit peu à l'aspect un peu brinque-ballant en termes narratifs en fait du film, quoi.
Oui, mais c'est aussi un motif de satisfaction pour moi, c'est-à-dire que je sens ça mais t'as quand même des trucs qui sont assez
En gros, t'as une tête explosée qui explose pas.
C'est radical, t'as pas que ça, quoi. Mais t'as
One perfect headshot qui n'est jamais arrivé.
Oui, non, mais bien sûr, mais voilà, c'est pareil, quoi. Ils essayent de pousser en fait les liens en fait qui les retiennent, quoi. Je vois pas ça, moi, en ce moment dans les blockbusters. Non, mais je veux dire, c'est aussi une question de moitié, peut-être trois quarts pour mes collègues, moi, de bonne moitié de verre plein ou de moitié de verre vide. Moi, j'apprécie en fait ce que m'offre aussi le film, quoi. Mmh. Et je sais que ça fait quand même dans les blockbusters, ça fait mine de rien un petit moment. Enfin, en tout cas, je le vois pas très fréquemment, suffisamment fréquemment pour bouder mon plaisir là-dessus. Et je sais que et là aussi où je le comparais avec Jupiter Ascending et John Carter, c'est que je pense qu'une fois les déceptions de... Enfin, disons que ces à-coups que ces problématiques de mise en scène ou une narration t'opposent, c'est aussi des films qui sont très agréables à revoir, en fait. Je trouve, hein, tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'une fois que t'as digéré que c'est pas des flèches, quoi, ces films-là, c'est des films qui ont des à-coups, qui s'arrêtent et puis qui redémarrent, etc. Mmh. Une fois que t'as digéré ça, t'as quand même des vrais motifs de satisfaction. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un côté décrescendo sur le film. Maintenant, moi, je sais que la bataille, il y a une bataille aérienne à la fin. Moi, j'étais content de voir ça. Mmh. C'est un truc que j'attends, moi, dans les nouveaux Star Wars, que je n'ai pas eu, en fait, sur tous les films qui sont sortis pour l'instant. Et là, je l'avais, en fait. J'avais de temps en temps un peu ce sentiment de vitesse, ce sentiment un peu galvanisant, quoi. Rivers, c'est aussi un mec qui est fasciné par l'aviation de la Première Guerre mondiale, comme Peter Jackson. Et je le sens, ça, un peu. C'est, pour moi, c'est un vestiaire là-dedans.
On avait presque réussi à faire une fin d'année sans parler de Star Wars, mais vous n'avez pas pu vous en empêcher, messieurs, dames. Pour terminer, on fait comme toujours un petit tour de recommandations, pas nécessairement dans le cinoche néo-zélandais ou la SF, parce que, comme toujours, vous êtes totalement libre de vos choix. Perrine, Kenson.
Oui, très bien.
Bonsoir.
Non, parce que j'ai repensé au Young Adult et Young Adult, on entend évidemment parler des Hunger Games, des Twilight et compagnie, mais ça, c'est ceux qui ont fait des entrées. Et puis il y en a plein qui sont ramassés sur l'autel du young adulte après un premier film. Et je pense à un film qui s'appelait Sublime Créature, qui en soi n'est pas largement pas le meilleur film de tous les temps, mais qui pour le coup, en termes de prémisse de saga young adulte, était peut-être l'une des plus à la fois intéressantes, avec un univers qui fonctionnait plutôt bien, mais surtout étonnamment l'une des plus charnelles, ce qui n'était pas le cas de la majeure partie des young adultes. Et donc il avait quelque chose d'un petit peu différent, ça n'a pas du tout marché, ça s'est planté royalement. Encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà. Et Mortal Engines est complètement différent de ça, mais c'est dans cette idée d'un young adulte qui est arrivé pas au bon moment et qui tentait quelque chose d'autre, et qui, j'espère que Mortal Engines aura un meilleur avenir, afterlife, que ce sublime créature dont personne n'a entendu parler.
Et dont on n'entendait plus beaucoup parler. David.
Moi, Marocco était un peu éventé par Perrine pendant l'émission.
What?
Mais en fait, non, je voulais parler de Robert Sheehan. Alors moi, moi qui suis très peu physionomiste, pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, je l'ai déjà vu quelque part. Et en fait, effectivement, donc c'est un des personnages principaux de Misfits, de la série britannique. Et il a changé de coupe de cheveux entre-temps.
Ah, mais c'est pour ça. Tu t'es perdu.
Faut dire que c'était presque il y a 10 ans. Mais c'est n'est pas moins une excellente série, en tout cas en particulier sur la saison 1. Moi, je recommande juste la saison 1 de Misfits. Perrine pousse un peu la saison 2 aussi, mais faut sauter en vol à un moment.
Oui, Perrine, tu veux dire
quelque chose? Non, c'est pour aller avec ta reco sur Robert Sheehan. Il va être dans une série Netflix à la rentrée, Umbrella Academy, où il retrouve un personnage très proche de celui de Misfits.
Ouais, on va suivre ça parce qu'à la fois,
je crois que tu avais bousillé la reco de David jusqu'au bout. Je me suis dit que c'était un assez beau geste.
Non, mais c'était à la fois. En fait, pour le coup, c'est un des points forts de la série et peut-être un des points faibles de Mortal Engines. D'ailleurs, moi, faut pas dire, c'est pas une. Non, j'allais faire une blague affreuse sur sur le fait que les gens allaient peut-être croire que c'était une angine mortelle, mais bon.
Wow.
Ça vient de m'arriver.
Wow.
Non, donc,
qu'est-ce que n'écoutez pas David Honora, allez voir Mortal Engines. Il a perdu toute crédibilité.
Je sais pas ce qui s'est passé là,
On va couper au montage.
Non, je crois pas. Je pense qu'on va la laisser.
Et donc, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une, donc une série britannique de la BBC qui est intéressante sur la capacité en fait que peuvent avoir les Britanniques. À faire en fait de la fiction fantastique avec a priori pas forcément énormément de moyens et en fait la capacité à sublimer un univers très contemporain. Oui. Et on aimerait, enfin moi j'aimerais beaucoup voir ça dans la fiction française qui j'ai notamment vu récemment Hippocrate qui dans un genre très réaliste arrive à s'en sortir, ce qui est déjà bien parce que les séries françaises
même réalistes
n'arrivent pas toujours à se hisser à ce niveau de qualité mais voilà, enfin quand tu vois Misfits qui est une série qui a 10 ans tu te dis mais comment ça se fait que Canal n'est pas foutu de produire en France quelque chose comme ça. Voilà,
très bien. Julien.
Moi, je vais aller. Alors, même s'ils s'en défendent, le film évidemment travaille autour. En tout cas, je sais que les romans étaient très clairement affiliés au steampunk.
Oui, parce qu'on n'a presque pas parlé.
On
n'en
a pas parlé, mais d'ailleurs, le film.
C'est des romans pas très connus en France.
Le film s'éloigne un peu de ce sous-genre-là, de la SF. Hein. Mais il en garde quand même des traces. Donc, je pense que faire une roco qui est affiliée au steampunk est intéressante. Et puis, ça me permet de ramener un autre truc aussi qui est que. Quand il a fallu qu'ils vendent ce film qui a été très compliqué à vendre hein, à Hollywood et tout, une des références en fait pour cerner un peu le truc de Christian Rivers, c'était La Puta. Alors de Miyazaki, ma reco, c'est pas La Puta. Je voulais juste recommander un sketch en fait de Memories, qui est un film omnibus fabuleux où Satoshi Kon avait fait ses débuts. De réalisateurs officieux sur le premier sketch mais je voulais parler du troisième opus en fait qui s'appelle Cannon Fodder qui était donc de Katsuhiro Otomo et qui à la fois alors visuellement c'est une splendeur quoi. C'est quelque chose d'absolument magnifique et en plus c'était un vrai tour de force technique puisque c'est un petit cours donc d'anime mais en plan séquence, c'est un seul plan en fait et qui bénéficie en fait de grandes avancées dans la technologie numérique qui a un petit peu servi de galop d'essai d'un autre film qui fera plus tard Otomo qui est Steam Boy, voilà, que je peux aussi rajouter.
Qu'on peut recommander au passage, c'est l'habitude de Julien Dupieux, c'est de faire deux ou trois recommandations.
Et la promo, tiens d'ailleurs, et la promo de Mortal Engines, qui est vachement bien parce qu'elle est focalisée sur les petits corps de métier du film. Alors, je suis pas sûr que ce soit très vendeur, mais moi je trouve ça formidable en fait d'avoir fait une grosse partie de la promo là-dessus. Voilà.
Stéphane.
Moi je vais rester un peu sur Peter Jackson et sur des films que les gens connaissent mais qui sont pas forcément en fait qui sont pas forcément vus de façon totale en fait, c'est-à-dire que on parle de films univers en général avec avec évidemment Le Seigneur des Anneaux, mais c'est quelque chose qui faisait déjà avant en fait et un minimum dans Créatures Célestes. Et il faut savoir que Créatures Célestes, la version la plus connue, c'est une version en fait qui est coupée par Miramax dans les années 90 et pour avoir la vraie version de Peter Jackson, j'allais dire la version longue, mais c'est pas vraiment la version longue, c'est le director's cut de Peter Jackson, il faut vraiment se tourner vers l'import et ça serait pas mal mine de rien que ça sorte aujourd'hui parce que même si c'est un film qui était, moi je trouve déjà assez parfait dans sa version tronquée, c'est un film qui est encore plus fort en fait dans la version longue parce qu'il y a encore plus de violence graphique. Notamment le plan final qui est assez impressionnant parce que ça change vraiment la donne. Tu pars vraiment avec cette image assez hard du film, quoi. Tu sors du film comme ça et y a aussi quelques petits trucs qui rendent finalement la narration beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment que des scènes coupées et non pas du remontage. Mais c'est vraiment dommage en fait de se dire que le film finalement est surtout connu comme ça en Nouvelle-Zélande et un peu maintenant grâce à la vidéo. Et l'autre film, c'est son film de 2009 là, qui était donc j'ai un trou, c'est Lovely Bones, merci,
Lovely Bones,
qui est un peu son pendant, oui, le pendant en fait de Créatures Célestes, et qui est aussi un film d'univers assez impressionnant, je trouve, parce que y compris peut-être pour des spectateurs comme nous, arriver à nous faire comprendre en fait quel est l'univers d'une gamine de 14 ans, et te faire complètement adhérer à ça, alors qu'en fait c'est un univers graphiquement, visuellement, qui pourrait nous repousser totalement.
Sûr, ouais.
Bah, c'est là en fait où je vois vraiment la capacité de réalisateur de création. Il y a des moments de mise en scène complètement dingues en fait dans ce film là, et c'est malheureusement pour moi ce qui manque assez cruellement à des films comme Mortal Engines, quoi. Voilà.
Très bien, merci à tous les quatre, tous les quatre, vous étiez quatre parce que Perrine Quetson nous a quitté entre temps, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, puis on vous dit à très vite.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.